Charles Louis-Philippe, La mère et l'enfant, chapitre 3e. J'eus 5 ans et ma mère m'envoyait à l'école. Maman est une femme savante et expérimentée qui sait que les petits-enfants doivent aller à l'école. Il y a des enseignements chez les hommes qu'il faut connaître, comme la lecture, l'écriture, savoir vivre en compagnie d'autres enfants, et tout cela est nécessaire pour donner un cerveau qui conçoive avec un cœur qui comprenne. Maman connaît les nécessités. La vie est formée par des travaux de commerce et d'industrie qui prennent les hommes et les font participer à son harmonie. Maman le croit bien humblement dans son cerveau de bonne femme. Et elle m'envoie à l'école sans phrase, car j'accomplis une action indispensable, comme boire ou manger. J'ai 5 ans et je passe mes journées loin d'elle. Mais elle se dit, il faut que mon enfant soit instruit de toutes les choses humaines. Aller à l'école. Un petit garçon de 5 ans est encore chancelant sur le chemin de l'école. Il peut tomber, car le voyage est long, ou bien se perdre, car en bas de la place, il y a 4 rues, et l'on oublie quelle est la bonne. Quant à m'accompagner, maman n'en a pas le temps. Alors elle me confie à Pierre, le fils du charron, qui a 12 ans et qui sait comment on doit se conduire dans la rue. Aller à l'école, c'est une promenade très gaie. Pierre me porte sur son dos et court. Je suis là, cavalier au galop, presque aussi bien que sur un vrai cheval. Tout défile autour de moi et je respire un grand air comme s'il y avait du vent. Bien vite, j'en pris l'habitude et je disais à Pierre avec mes idées sur le dos humain, « Pierre, porte-moi donc sur tes 2 reins. » D'autres fois, Pierre me donnait la main. Maman nous regarde descendre et je suis un bonhomme en culotte avec une main captive, mais avec une allure indépendante. Pierre fait l'imbécile pour me taquiner. Le voici qui ferme les yeux. C'est un aveugle que je dirige. Je suis fière qu'une responsabilité m'incombe de le conduire loin des accidents. Mais au fond, je suis inquiet parce que je ne m'en sens pas bien la capacité. Pierre est un malin qui, lorsque les voitures vont vite, sait se garer. Mais qui, lorsqu'elle passe avec une lenteur d'âne, fait semblant d'être entraîné vers elle. Je le tire par la main, je m'impatiente, je crie et je supplie. « Pierre, fais donc attention, tu vas te faire écraser par la voiture de mon oncle Charles. » Et les jeux dans la cour. Maman ouvre la porte de la boutique d'où l'on entend au loin des cris d'enfants qui se combinent pour faire un grand tapage. Ce tapage est de la vie et de la joie. Elle pense, « Mon petit s'amuse et je suis contente. Les jeux du matin donnent une bonne santé, et une bonne santé, c'est une des meilleures choses de ce monde. » Et il y avait une science utile et simple que nous enseignaient les instituteurs. Ils nous l'enseignaient avec leur cerveau de fils d'homme des champs, et la rendait grosse et sans élégance, comme leur nom, Pinel, Aubert, Lorcerie, Chavarot. Ils m'apprirent à faire des bâtons, à épeler les lettres et à compter sur le boulier compteur. Faire des bâtons est une occupation très amusante, grâce à laquelle on se sert de porte-plume et d'encre pour griffonner sur un cahier. Je finis par acquérir de l'adresse. Mes mains et mon cerveau se plièrent comme une plante à l'ombre se plie et va vers le soleil. À 4h15, je rentre à la maison. J'ouvre la porte. « Bonjour, maman !» Elle est assise, je l'embrasse, et nous nous regardons longtemps pour rattraper le temps perdu. Tout de suite, je lui raconte mes histoires. Histoire de 5 ans, petit fait d'un sou, L'on vous écoute en souriant parce que vous n'êtes pas dangereuse. Vous renfermez un joli sens et qui montre que je regarde les choses et que je les apprécie. Il faut respecter les convenances. Il faut accomplir ses devoirs. Je sais cela et je m'en forme une loi morale qui sera mon guide. Georges, le fils du conducteur des ponts et chaussées, qui porte encore des robes, a laissé sur le banc s'échapper une chose malpropre. C'est très laid à son âge, je le dis à maman. Elle raisonne avec moi, avec les mots mêmes dont je me sers, comme pour se mettre à la portée de mon cerveau. C'est très laid, mon petit. Il aurait dû demander à sortir, et l'on aura raison de le punir. À sa place, j'aurais bien honte. Simon, le fils du cordonnier, ne voulait pas venir à l'école, et son père a dû l'y emporter sur son dos. Et Simon criait comme un méchant. Alors, maman dit, il n'apprendra jamais à lire, et plus tard, quand il sera grand, il sera un grand bêta. Une autre fois, Simon a donné un coup de pied dans les jambes du petit Émile et lui a fait du mal. Simon est un gros brutal. Il aurait pu casser la jambe au petit Émile et on l'aurait conduit en prison. Maman, pauvre bonne femme, tu ne sais pas que les prisons sont un mauvais châtiment. Tu en parles avec tes idées de village, tu les crains et tu les respectes un peu comme on respecte la justice. Maman, il faut craindre les mauvaises actions plutôt que la prison. Tu ne sais pas que, pour avoir voulu faire le bien, il en est qui alerte au bagne. Et puis, j'ai tort de dire ces choses, parce que je n'aurais pas dû le comprendre. Et puis, ne faut-il pas quelques épouvantails pour les petits-enfants ? Tu étais une bonne femme, maman. Tu connaissais une étroite honnêteté. Et tu m'enseignas cette honnêteté qu'il y avait dans ton cœur. 5 ans, 6 ans et 7 ans se suivent et se ressemblent. L'école, avec la naïveté, vous fait un esprit réfléchi, mais dont les réflexions sont drôles. Et le soir, auprès de sa mère, la vie d'un enfant s'exprime en petites paroles où l'on voit passer de bons sentiments. 5 ans, 6 ans et 7 ans, vous vous asseyez sur une chaise au pied de l'horloge. Vous regardez autour de vous et le labeur de votre esprit ressemble au travail d'une ménagère qui prépare le repas à ceux de sa maison. Vous jouez aussi, mais pas trop loin de la porte, car il y a encore des accidents. Vous jouez à faire du bruit et à courir. Votre corps est plein de mouvements comme un corps heureux et vous en jouissez au matin de votre âge comme on jouit d'une chose neuve. 5 ans, 6 ans et 7 ans, vous mangez et vous dormez. Vous êtes la gaieté de la maison, un concert, un spectacle et une bénédiction. Vous vous éveillez le matin avec du bruit et vous vous endormez le soir silencieusement selon les rythmes. Vous êtes de la santé, des yeux qui brillent, des joues rondes et des membres agiles où la joie passe en entier. Enfin, vous êtes de la tendresse, un cœur et des lèvres. Et puis vous avez une âme flexible que l'on prend à deux mains et que l'on redresse afin d'en faire l'âme pure et bonne d'un homme juste et généreux. 5 ans, 6 ans et 7 ans, la joie. Un jour de septembre, lorsque j'avais 7 ans, j'eus mal aux dents. Mal aux dents, c'est triste. Cela prend les idées et les comprime jusqu'à ce qu'elles souffrent comme des bêtes et ne sachent plus que dire « j'ai mal aux dents ». Maman faisait la lessive. Je rôdais autour d'elle inquiet. Je marchais en me plaignant. On dirait que nous promenons notre douleur afin de l'égarer, pour qu'elles se perdent dans un coin et ne puissent plus nous retrouver. Maman, s'interrompant, me regardait avec de bons yeux. Les souffrances d'un enfant sont des souffrances imméritées. Le destin martyrise quelqu'un qui se plie et qui pleure avec tant de faiblesse que l'on pense « Nature, tu es forte, mais tu es bien injuste. » Maman m'embrassait « Mon pauvre petit, tu as mal aux dents. » Le lendemain, j'eus encore mal aux dents. « Mon garçon, nous la ferons arracher ce soir. » Le médecin prend des pinces très dures et malfaisantes comme une âme d'acier. On ouvre la bouche, quelque chose s'arrache, on crie. Ça y est. Le surlendemain, j'eus encore mal aux dents. « Tu n'as pas de chance, mon enfant. Qu'est-ce que c'est donc que ce mal de dents qui ne veut pas finir ?» Je m'asseyais sur une chaise et je penchais la tête pour voir si pencher la tête ne me soulagerait pas. Je ne promenais plus mon mal de dents comme au premier jour, car il était tel que rien ne pouvait le distraire. Assis sur une chaise et penché, voyez-vous cet enfant ? Quelque chose est sur lui, trop lourd pour ses épaules. Il pleure, il invoque sa mère, il invoque Dieu et toutes les puissances qu'il connaît. Quelque chose est sur lui, terrible, comme un châtiment. La mère pense, « Mon enfant ne vous a jamais offensé, mon Dieu. Et moi, que vous ai-je donc fait pour que vous vouliez le punir ? Mon Dieu, c'est à moi que vous auriez dû donner cette souffrance. » Il y eut une fluxion. Elle croissait. On fit venir le médecin qui la tâta, la pressa, n'y connut pas grand-chose. Et dit, c'est sans doute un abcès, nous le percerons dans quelques jours. Ces visites du médecin nous rassurent un peu et l'on souffre avec plus de calme en vue de la guérison. Le médecin revint. Ce n'était pas un abcès. Quelque chose, une grosseur, une tumeur, on ne sait quoi. Ma pauvre tête entière était malade. Je sentais cela sur mon front, sur mes cheveux, dans mon cerveau, sur ma nuque, comme une grosse main appuyée qui me faisait courber la tête. Le médecin ordonna une pommade. Pommade, pommade, tous les matins et tous les soirs, le mal se riait de vous, et vous restiez là, inoffensive et ridicule. Pommade, pommade, tous les matins et tous les soirs, votre peau de pommade désemplissait un peu. Mais vous étiez blanche, aussi vaine qu'une belle dame auprès d'un accident. Un jour succède à l'autre, pendant qu'une douleur succède à une autre douleur. Voici les jours noirs qui naissent avec un matin fatigué. 8 heures et la soupe sont tristes, comme un remède à ceux qui n'ont pas d'appétit. 9 heures, 10 heures, 11 heures. La douleur habite votre cerveau, votre mâchoire, vos tempes et votre sang. Vous n'êtes plus, vous, cet enfant au regard et aux idées, car la douleur vous bouche les yeux et remplace vos idées. Et midi, en vous offrant ces bons plats de campagne, vous fait souffrir encore. Enfin, l'après-midi s'étend, comme une plaine de sable où l'on est perdu avec l'ennui, avec le soir et avec la mort. Et le médecin revint. C'était un gros bourgeois de province qui mangeait, chassait et buvait et visitait les malades avec un vieux reste de science qu'il rapporta de Paris. Brave homme et bon cœur qui s'apitoyait comme un ignorant et disait « Pauvre petit bougre !» Du reste, il n'osait pas pratiquer d'opération chirurgicale, par crainte de faire souffrir le pauvre monde. Je pense que c'est surtout parce qu'il n'était pas sûr de lui-même. Il ne comprit jamais rien à ma maladie. Son savoir fut épuisé lorsque, après la pommade, quelques remèdes amers et dépuratifs me fatiguèrent bien plus. Je m'affaiblissais chaque jour. Vous voyez un enfant dont le corps s'en va, qui sent partir sa chair et dont l'âme anime seulement quelques tissus frêles et qui dépériront encore. Il y a des pommettes pointues, des mains translucides et osseuses, et sous ses habits, il y a 12 côtes saillantes qui semblent à l'intérieur d'une maison de misère. Cependant que cette grosseur de la joue grossit, s'accroît de tous les malheurs d'alentour et veut demeurer à jamais comme un parasite installé chez un pauvre homme. Le médecin, alors, se tourna du côté de la chirurgie qu'il n'aimait guère, mais il fallait me sauver. Il feuilleta des livres car il avait de la bonté, si bien qu'un matin, il osa faire une incision. Et la souffrance et la peur se joignaient en moi, pareils à deux mains qui s'unissent et pressurent un cœur. L'incision fut faite, après laquelle il y eut une plaie suppurante et dont on entretenait la suppuration. Je fus à cette époque un enfant de 7 ans, qui, la tête cerclée d'un bandeau, offrait à l'air un visage pâlissant dans les linges. Tout le jour, ma petite chaise et moi, au pied du lit, au coin du feu, formions un meuble immobile et geignant. Parfois, maman changeait les pansements avec ses bons doigts, mais un toucher, une caresse en passant, remue la vie douloureuse d'un malade et l'agite. Alors, elle me prenait sur ses genoux et me berçait. Or, il y avait en son sein une chaleur qui m'endormait. Le soir, loin des abcès cruels, auprès d'une mère dont les deux ailes me recouvrent. Cet abcès ne termina rien. Un jour, il se ferma et la grosseur de ma joue subsistait. Le médecin encore me tâta, me fit ouvrir la bouche, examina toute chose, réfléchit un instant et dit « Décidément, je n'y comprends rien. » Un nouveau médecin vient de s'installer ici. Vous devriez le voir, afin qu'il essaye aussi de guérir votre enfant. C'est ainsi. Il y a des étudiants en médecine qui s'amusent à Paris et qui étudient afin d'être docteurs. Et puis, ils sont riches et s'établissent dans un coin de province où ils doivent guérir les malades. Leur vie est joyeuse auprès des gentilshommes campagnards. Alors qu'ils mangent et qu'ils boivent, ils courent un peu les filles, ils chassent et ce sont de bons vivants. Ils parcourent la campagne et font leur métier pour augmenter leurs revenus. On les aime parce qu'ils sont gais et parce qu'ils se portent bien. On leur ouvre les portes et on les accueille dans les maisons comme on accueille la guérison. Et enfin, lorsqu'ils ont fait plusieurs visites à 2 francs, la maladie s'est aggravée. Et ils vous disent « Je ne comprends rien à votre enfant » et vous déclarent que vous ferez bien de le montrer à un autre médecin. Le second médecin ressemblait au premier. Fils d'un paysan riche, il voulait s'enrichir encore et brillait de manière à contracter un beau mariage. Mais c'était un bon jeune homme d'alcool et de gaieté qui s'agitait et savait me faire rire. Nous allons à son cabinet le jeudi matin lorsque nous traversons la place du marché. Il y a des gens, le jeudi matin, qui font leurs affaires en vendant des œufs. Maman fait ses affaires en conduisant son petit au médecin. Vendre des œufs, c'est gagner de l'argent. Soigner son enfant, c'est gagner de la vie. Lorsque nous entrons, plusieurs personnes attendent et nous attendons à notre tour en causant tout bas pour faire passer le temps. Savoir ce qu'il va bien nous dire aujourd'hui, c'est peut-être cette fois-ci qu'il te guérira. Petit cabinet du médecin avec des fauteuils, des tables et des livres, je vous revois. Vous me sembliez plein de luxe parce que vous étiez plein de tapis. Vous étiez silencieux aussi pour accueillir les malades, et à cause de vos livres, vous aviez l'air savant comme votre maître. Petit cabinet du médecin, vous étiez une petite chapelle où le bon Dieu accueillait les blessés. Nous entrons ici pour connaître notre destin. Maman, un peu pâle, me tient par la main. « Vous étiez très bonne, petite chapelle, lorsque le bon Dieu me disait « Assieds-toi ». Il me tâtait en demandant « Est-ce que je te fais mal, mon petit bonhomme ?» Il me regardait dans la bouche aussi et c'était drôle, parce qu'il disait « Allons, ouvre le bec !» À la fin, il y avait tel ou tel remède à prendre qui faisait battre notre cœur. C'est peut-être le vrai remède. Et quand nous sortions, le médecin me caressait, me donnait de l'orgueil, parce que je savais répondre à ses questions. Qui est-ce qui a succédé à François Ier ? Nous remontions chez nous le jeudi matin. Un enfant et sa mère ont descendu cette rue en ne sachant pas. Voici qu'il la remonte en souriant. Les nouveaux médecins sont pareils aux nouvelles amantes qui donnent un nouveau bonheur. Et vous, jeudi matin, avec cette clarté, vous embellissiez la semaine. Jeudi matin, je vous aime. Et maintenant, vous êtes encore pour moi un matin d'espérance. Pendant longtemps, les remèdes se suivirent. Nous courons chez le pharmacien et je les utilise immédiatement. Il ne faut pas laisser au mal un seul des instants qu'on peut lui soustraire. Les premiers jours, j'étais bien naïf. Chaque potion amère fut un divin liquide inventé pour le bonheur humain. Je la bois, je la sens en moi, je gesticule en criant « À présent, je suis guéri !» Un peu plus tard encore, j'espérais au lendemain. Celui qui se couche plein de souffrance, la nuit le prend entre ses mains et le caresse et le repose. Demain matin, la fatigue s'en est allée. Le sommeil vous a lavé la tête. Et la grosseur de votre joue, vous souvenez-vous ? Eh bien, elle n'est plus là. Un peu plus tard encore, j'espérais dans la fin de la semaine. Plusieurs jours sont nécessaires pour que ce remède entre dans votre sang. Tout d'abord, vous ne sentez rien, parce que son travail ne s'est pas fait. Mais bientôt, lorsqu'il a pénétré votre chair, toute votre chair se transforme, les humeurs dissoutes s'en vont et se perdent. Peut-être bien que la prochaine visite au médecin sera la visite de guérison. Mais hélas, espérance décevante, belles espérances de mes jours qui m'avaient trompée, je vous ai vu partir, l'une après l'autre, comme les fleurs d'un jardin qui n'ont pas laissé de fruits. Vous étiez plusieurs à mes côtés. La première était la plus belle. Elle est partie d'abord. Sa sœur était un peu moins belle et m'a quittée bientôt. La troisième était modeste et douce. Elle se tenait devant moi et lorsqu'elle me regardait, il brillait dans ses yeux un peu de mon âme. Je vois bien maintenant que celle-ci était la meilleure. Je lui tendais les mains. Et nous jouions ensemble à cache-cache derrière les bosquets où sont les plantes vertes et noires. Un jour, elle s'est trop bien cachée et je n'ai jamais pu la découvrir. Ah oui, nos caractères savent se plier. Faculté d'assimilation. Pauvre cerveau et pauvre nerf, vous en jouez de vos facultés d'assimilation pour vous habituer au malheur. Quand les trois espérances eurent franchi mon seuil, je vécus côte à côte avec mon mal. Je vécus à côté de mon mal comme un homme à côté d'une personne qu'il connaît. C'est une mauvaise personne qui vous gronde et qui vous bat. Elle s'assied sur votre chaise. Elle prend place à votre table. Elle se couche dans votre lit. Elle voudrait entrer dans vos pensées. Mais nous savons garder nos pensées des mauvaises personnes. Nous les enfermons au fond de nous-mêmes, là où sont nos sentiments les meilleurs. Elles vivent, elles se blottissent au nid, elles sont de bonnes pensées, tièdes et frileuses. Mélancoliques pensées des malades, pensées bonnes et fines. L'âme, à son tour, prend un peu de votre forme. Et bien heureux les enfants malades, car ils auront de la finesse et de la bonté. Maman, qui me voyait dépérir, ne s'habituait pas à mon mal. Il y avait un enfant qui ressemblait aux autres enfants, avec sa vie saine et son bonheur. J'étais beau comme un travail qu'elle avait fait. Je représentais une partie de sa chair et de son sang. Et sur mes idées, on sentait que ses mains avaient passé. Or, cet enfant, qui jouait, s'assied dans un coin pour souffrir. Ce travail que l'on a fait, ce bel objet qui vous avait coûté tant de peine, qu'un souffle passe encore, il sera brisé. Et la chair de votre chair se corrompt. Le sang de votre sang s'amasse en un endroit de la joue et devient du pu et de la douleur. Oui, ces idées sont bien ce que j'en avais fait. Mais les idées dans ce corps maigre tremblent et pâlissent jusqu'à ce qu'elles meurent, mon Dieu. Alors, puisque le médecin n'y pouvait rien, maman s'arrangea pour me guérir elle-même. Les médecins qui ont fait des études connaissent beaucoup de maladies. Mais pour guérir un malade, il faut l'examiner avec cet instinct que donne une grande bonté. Dans les hôpitaux, de vieux chirurgiens et de jeunes internes pratiquent toute la science des écoles. Or, beaucoup d'hommes meurent parce qu'on ne sait pas les soigner avec amour. La bonté est plus forte que la science humaine. Il faudrait que la médecine fût un sacerdoce et que chaque médecin pratiquât son métier comme on accomplit un grand devoir. Loin des plaisirs du monde, dans sa pensée et dans son cœur, il faudrait que le médecin restât chaque jour afin de se recueillir et de se fortifier. Un cerveau, c'est bien pour connaître les maladies, mais un cerveau et un cœur, cela suggère les miracles. Vous devinez ce que vous n'aviez pas compris, et votre amour, dépassant vos idées, vous guide dans tous les dédales. Isaac Newton découvrait la gravitation, non parce qu'il était savant, mais parce qu'il avait une âme poétique. Les médecins qui parcourent les campagnes avec leur gros sang et leurs idées sereines, passent dans les maisons et regardent les maladies comme un conducteur des ponts et chaussées regarde un remblai qu'il faut combler. Les hommes sont de simples matières où l'on exerce son métier. Or, la médecine n'est pas une science que l'on applique aux hommes comme celle que l'on applique aux pierres. Maman s'arrangea donc pour me guérir elle-même. Je ne pouvais manger. La vie est une duperie. Ce sont les gens maigres qui ne peuvent pas manger. La soupe réconfortante du matin, les haricots et le vin du midi, la soupe encore du soir, me donnent des hauts le cœur et je m'enfuis sur ma petite chaise dans mon coin, là où l'on ne mange pas. J'aimais pourtant les biscuits qui, trempés dans le vin, fondent avec un goût de sucrerie. Mais ce n'est pas une nourriture, et puis dans nos campagnes saines, on ne veut pas dépenser son argent à des biscuits. Maman cherchait quelque aliment réconfortant et qui me tenta comme une friandise. Elle finit par penser au chocolat. Tous les matins, tous les midis et tous les soirs, avec une belle couleur lilas, et une odeur chaude. Le chocolat au lait m'appelait comme un ami. Je fus tentée dès la première fois. Petit gourmand, je m'approchai. Or, une force agite ma cuillère. Et jusqu'à la fin, maman, j'ai mangé mon chocolat. On finit même par mettre du pain dedans. Je ne mourus pas d'inanition. Chocolat au lait, je vous serai toujours reconnaissant parce que vous m'avez sauvé la vie. Celui qui mange, la nature le fait rentrer dans ses lois. Un repas, une digestion et la faim qui les suit sont des phénomènes essentiels. C'est un nouveau sang qui se forme, une nouvelle chair aussi. Et puis, il semble que de nouvelles idées se forment en même temps. Vous participez à la vie ordinaire qui se compose de changements. Vous êtes en mouvement comme le vent, comme les hommes et comme toutes les forces naturelles. Un malade se renferme et se replie vers le passé. Sa pensée se souvient et revit les anciens instants, tandis que son corps absorbe et boit les anciennes substances. Et il arrive, en ce temps-là, que sa pensée s'étiole et que son corps s'amaigrit parce que les anciens instants sont passés et parce que les anciennes substances se sont épuisées. Maman se dit qu'elle devait faire revivre mes idées, comme elle avait fait revivre mon corps. Elle me fit retourner à l'école. Ça me distraira. Certainement. Et lorsque je descendais avec mes cahiers sous le bras, je pensais à des choses de l'école. Je devenais studieux. L'histoire de France m'emplissait la tête de ses actions de roi et de ses batailles. Je connus des bruits d'armure que frappaient les épées alors que du Guesclin, Jeanne d'Arc et les Anglais habitaient mon âme avec force, comme s'ils avaient habité ce monde. Histoire de France, aussi, vous m'avez sauvé la vie. C'est à cette époque qu'une vieille mendiante avec son enfant passa devant notre maison. C'était une vieille femme, habitant à quelques lieues de là, qui, tous les mois, venait dans notre petite ville, où les riches bourgeois avaient l'habitude de lui faire des dons. On la voyait passer, tenant son panier d'une main et son enfant de l'autre main. Son panier contenait les choses de sa vie, des œufs, des légumes, du vin et son porte-monnaie, et son enfant contenait tout son bonheur. Chaque mois, on la voyait passer, avec ses vêtements propres, son bonnet blanc et son visage couleur de grand air. Elle habitait sur la lisière d'un bois une petite cabane qu'entouraient les champs jaunes du Berry et la forêt profonde de mon pays. Mais jamais on ne l'avait aperçue dans sa cabane. Les gens, en passant, disaient « C'est ici la maison de la mère Henri. » Et les contrevents étaient fermés et la porte barrée. Voyage de vieille mendiante, voyage souvent lointain de celle dont la besogne est par les routes. Les voyages forment l'esprit, car on récolte dans les champs, dans les maisons et sur les chemins presque toutes les connaissances de la vie. C'est ainsi que la mère Henri apprit à faire avec des plantes une eau qu'on appelle l'eau rouge et qui soulage de toutes sortes de maux. Elle guérissait aussi de la loubée. Je n'ai jamais su ce que c'était que la loubée, mais la mère Henri guérissait de la loubée. Si elle avait été plus vieille, solitaire et sale, on aurait cru qu'elle était sorcière. Mais elle avait un enfant, comme les autres femmes. Elle était propre, comme les autres femmes encore. Elle causait ainsi que tout le monde, et l'on croyait simplement qu'elle avait appris le long des routes quelques-uns des secrets des plantes. Depuis quelque temps, maman la guettait à passer. Il y a des espérances inavouées que nous plaçons sur les vieilles têtes du hasard. Maman pensait que la vérité qui voyage peut rencontrer ce qui rôde. Et puis, il y a toujours des voisins qui connaissent le cousin d'une personne qu'une vieille mendiante a guéri. Enfin, le succès appartient à ceux qui le cherchent partout, même où ne s'arrêtent guère les succès. Maman appela la mère Henri. « Nous pouvons toujours essayer, » disait-elle. « Mère Henri, je vous vois encore lorsque vous arriviez lentement, avec votre bon air, comme tous ceux que l'on attend. Vous m'avez aperçu, la tête entourée d'un bandeau, et vous avez dit, en effet, l'on m'avait appris qu'il était malade, votre petit. Votre enfant était avec vous. Maman, tout de suite, vous raconta que c'était un mal qui ne voulait pas s'en aller. Et parce qu'elle était impatiente de ce que vous lui diriez, Elle défit bien vite le bandeau. La grosseur était là. Vous l'avez touchée du bout des doigts par crainte de me faire mal. Ensuite, vous avez dit « c'est sans doute de l'humeur ». Et vous nous avez regardés. Vous avez bien vite ajouté « il faudrait mettre là-dessus un saint bois ». Un saint bois, c'est une petite écorce qui attire l'humeur et la fait sortir en dehors. On en trouve chez tous les pharmaciens. Alors, maman, pour vous remercier, vous offrez de manger du pain et du fromage en buvant un verre de vin. Vous avez accepté et votre enfant s'est assis auprès de vous, sur la petite chaise. Voilà, Mère Henri. Je me souviens de votre amour pour votre enfant. Vous lui donniez à manger et à boire, en disant « Mange bien, bois bien, mon petit ». C'était un enfant bien élevé qui mangeait proprement parce qu'il avait l'habitude de manger comme cela, chez des gens aisés qui n'aiment pas que les pauvres laissent des miettes. Vous le regardiez. Mère Henri, aussi longtemps que durera ma mémoire, je me souviendrai des regards que vous donniez à votre enfant. Vous étiez une vieille malheureuse dans une cabane et qui voyage pour aller tirer les sonnettes par tous les temps de pluie et de soleil. Votre main brune l'hiver pressait votre sein où glissait le vent gelé, et vos vieux pas d'été, pleins de sueur, marchaient au soleil sur les routes sans nombre qui usent vos jambes pour vous donner du pain. La pauvreté vous entourait le corps comme une grosse corde, et vous traînez ainsi qu'un maître traîne une bête pour la montrer aux portes des maisons. Mère Henri, quand vous regardiez votre enfant, l'on sentait que vous étiez une femme heureuse. Vous regardiez votre enfant comme Jésus doit regarder ce qu'il a mis au monde et qu'il fait souffrir. Mais surtout, vous le regardiez comme on regarde son bonheur. Votre enfant vous semblait beau, comme un château avec un parc. Le maître s'arrête et contemple en pensant qu'ici c'est sa vie, la richesse, l'aisance et la beauté. Votre enfant était meilleur que la chaleur des bons foyers, que les baisers des amoureux et que la viande que l'on mange en buvant du vin. De toutes ces choses, il vous tenait lieu, alors vous l'admiriez. Ce jour-là, il tombait de la pluie. Votre petit garçon dit « Il pleut ». Dans nos pays, on parle très mal et l'on dit « Ça pluie ». Vous le fîtes remarquer à maman. « Voyez-vous, madame, mon petit ne dit pas « Ça pluie », mais il dit « Il pleut ». Votre petit garçon sourit. « Voyez donc, madame, disiez-vous, comme il a de belles dents ». Et quand vous vous êtes levé pour partir, maman vous a dit « Il a l'air bien intelligent, votre petit. » Alors, Mère Henri, j'ai vu vos deux yeux comme deux âmes profondes dans lesquelles l'amour est tombé. Puis vous êtes parti entre votre panier et votre enfant. Votre panier contenait votre vie, mais votre enfant contenait tout votre bonheur. Un saint bois, maman n'osa pas l'appliquer. Sur ma joue, au siège du mal, il ne faut pas des remèdes de bonne femme. Un saint bois peut être bon, mais la prudence conseille de ne pas s'en servir. Maman ressemblait au vieux paysan malade qui appelle un médecin. Le médecin dit « Ce n'est rien, il faut prendre tel ou tel médicament facile. » Alors on l'écoute, parce que si cela ne fait pas de bien, cela ne peut du moins pas faire de mal. Mais si le médecin commande une médication compliquée, le vieux hoche la tête et pense « Il se trompe avec tous ces remèdes de pharmacien et mon mal partira comme il est venu. » Les médecins sont pareils aux conseillers que l'on écoute lorsqu'ils sont de votre avis. Ma mère, pourtant, était ébranlée. C'est une pente irrésistible sur les routes irrégulières et qui nous précipite jusqu'à sa fin. Tu as interrogé la science d'une commère, tu l'as comprise et tu voudras la compléter. La curiosité se joint à l'espoir et nous pousse. Pour maman, l'espoir surtout la poussait. Un Saint-Bois agit parce qu'il attire l'humeur. Pourquoi ne la transporterait-il pas à l'endroit que l'on aurait choisi? Sur un bras de mon enfant, si je mettais un Saint-Bois, par ce moyen, on verrait toute l'humeur s'en aller et celle de la joue aussi. Maman fit part de ce raisonnement à toutes nos voisines et chacune l'approuva. Moi, à votre place, j'essaierai. Pendant quelques jours encore, maman retourna cette idée dans sa tête et l'ayant bien appréciée, résolut, un samedi, de l'expérimenter pour une durée de 8 jours. Hélas, vous, Saint-Bois, entre 2 samedis qui restâtes sur mon bras, pauvre remède de bonne femme, vous nous avez trompés. Nous étions habitués aux déceptions depuis les temps de la pommade et de l'incision. Et de plus, nous ne laissions croître que de toutes petites espérances, afin que leur départ ne fît pas en nous trop de vide. Mais vous, Saint-Bois, remède de bonne femme, humble remède de gens comme nous, vous n'auriez pas dû tromper les vôtres. Nous vous avons pardonné. Nous avons même cru que nous n'étions pas assez hardis. Maman dit, ce Saint-Bois, il faudrait le mettre sur ta joue, mon petit. Mais je ne l'ose pas. La mère Henri avait peut-être raison qui voulait que l'on attaquât le mal en son endroit. Ensuite, le temps passa, comme passe le temps des maladies. Nous n'avions pas parlé de notre femme au médecin, parce que les médecins sont des gens savants qui n'aiment pas la concurrence. Le temps se levait chaque matin et traînait des jours gris dans notre maison, le long des rues de l'école et parmi les livres. On le voyait se dresser pendant des heures et poser ses doigts lourds sur ma tête. Nous allions souvent chez le médecin, et ces jours-là, le temps de notre vie semblait un peu plus clair et plus léger. On dirait que les médecins nous guérissent du temps. Nous allions chez le médecin. L'hiver passa, le printemps aussi. L'été vint, et nous allions encore chez le médecin. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ah oui, nous nous aidions. Mais le ciel mettait bien longtemps à nous aider. En avons-nous usé de la patience, maman? Lorsque nous nous donnions la main en descendant chez le médecin, nous pensions, il y a bien longtemps déjà que nous connaissons ce chemin. Et nous remontions tous deux en pensant, il y a bien longtemps déjà que le médecin ne connaît rien à ce mal. Le temps passa, tout habillé de fer, comme un guerrier dangereux qui ne veut pas passer. Une fois, le temps s'arrêta auprès de nous. C'est parce que ce médecin croyait que 2 cautères pourraient me guérir. Oui, le médecin dit un jour, il faudrait lui poser 2 cautères. Ça ne sera pas grand-chose et ça le soulagera certainement. Il me demanda. Comment écris-tu cauter?
C-O-T-E-R-R-E.
Mais non, répondit-il, parce que ça ferait cauter. Il faut l'écrire C-A-U-T-E, accent grave, R-E. Savoir écrire leur nom me rendait les cautères familiers. Cautères, vous ressembliez à mes bêtes familières, à Jeanne d'Arc et à Napoléon, et vous veniez à moi comme eux, à travers ma jeune science, pour faire du bien à mes mots. Pendant 8 jours, cautères, nous vous attendions comme un bienfait. Moi, parce que je vous connaissais, et maman parce qu'elle espérait en vous. Je crois que jamais, cautère de mon enfance, vous ne fûtes ainsi reçu chez les hommes par un fils et sa mère qui vous attendaient. Certes, nous avions expérimenté bien des remèdes. mais tout nouveau remède est doué de propriétés particulières, dont la meilleure est, je crois, d'entretenir l'espérance. Les médecins nous promènent à travers les connaissances humaines. Le matin d'Écotère, je ne m'attendais pas à ce qui allait arriver. Connaissant ma maladie, mon cerveau l'avait domestiqué et l'associé à ma vie, sans crainte de rébellion. Mais un jour, il s'aperçut que cette bête domestique était une bête parce qu'on agissait avec elle comme avec une bête. En effet, les cotères prennent la chair et la rongent furieusement. On voit ainsi une bande de chiens de chasse dévorer un sanglier des bois. Le médecin opérait, maman me tenait la tête et moi je me plaignais longuement avec des geignements égaux. Je me plaignais bien plus à cause de ma maladie qu'à cause des cotères. Je revoyais cette grosseur que Dieu posa sur ma joue et qui me traînait depuis si longtemps déjà sur sa route ardue où mes forces se lassaient. Je demandais compte à toutes les puissances humaines ou divines de leur malédiction. Vous m'avez blessé, moi qui n'ai rien fait. J'allais à l'école tous les matins et j'accomplissais tous mes devoirs lorsque vous m'avez blessé. Et vous m'avez blessé au visage afin que la blessure fût visible et pour que le châtiment fût profond. Ma joue se creuse sous deux cautères et c'est une marque infâme que vous m'imposez à jamais. Mais au moins, laissez-moi guérir, entrez votre poing dans ma chair et que j'en souffre, mais au moins, laissez-moi guérir. Quelques jours plus tard, lorsque le médecin enleva les deux cautères, il y avait deux trous que nous devions faire suppurer. Jusqu'ici, j'avais bien su que j'étais malade à cause de mes souffrances, de mes remèdes et de nos visites. Mais ces maladies élégantes restent à notre surface comme des douleurs aristocratiques. Presque du bonheur est sur elles. On se dit « je suis malade » pour se distinguer des autres hommes, et l'on sent que la maladie est une supériorité parce qu'elle affine les malades. Mais si la chair se rompt, la maladie se montre par deux trous et devient une maladie honteuse. Alors, le malade est un homme blessé qui laisse ses pensées dans ses blessures où elles se corrompent à leur tour et vivent avec des plaies. J'avais perdu mon calme et mon accoutumance. À l'école, mécaniquement, les choses entrent dans ma tête. Il y a deux parts dans mon esprit. L'une où viennent les connaissances du monde, malgré moi, parce que j'ai des sens, et l'autre où sont deux trous que mon âme habite. Moi, c'est la seconde part, c'est mon âme recroquevillée qui pense et qui pleure. Un jour que je n'écoutais pas ces observations, l'instituteur me donna une gifle. Alors, on vit baver deux filets de pus sur ma joue, qui était une tare cachée qui se montre, et par laquelle on comprend qu'il ne faut pas toucher à cet enfant puisque sa chair se décompose. Ces deux filets de pus me séparaient du monde. Mes nuits étaient noires et rudes. Un sommeil implacable me gardait pieds et poings liés, sans connaissance et sans pensée. De toute ma fatigue venait cet accablement, et tout mon corps y participait, par ses sens, par ses membres et par ses organes, qui ne pouvaient plus agir parce que le mal les avait usés. Mais un ronflement marquait ma vie, et ce ronflement encore était de la fatigue. Je ronflais comme on râle, avec une respiration qui voulait jaillir, mais qui devait traverser des marécages. Quand parfois je m'arrêtais, maman pensait « sa respiration peut-être n'a pas pu sortir ». Et elle me tâtait pour voir si je n'étais pas mort. Je m'éveillais le matin, amer, et la bouche pleine d'un pus qui semblait aussi gagner mon cerveau, où des idées s'épaississaient. Il y eut un jour où je ne pouvais pas fermer la bouche. quelque chose comme une dent de sagesse pointait pour la tenir entrebâillée. Le médecin dit « Mais voilà, c'est l'os qui sort. Je comprends maintenant sa maladie. Voyez-vous, madame, c'est l'os qui était gâté. Je m'en étais toujours douté. » Il prit une pince et enleva le morceau d'os ainsi qu'on enlève une dent. Le voici. Nous le regardâmes, maman et moi, comme une partie de nous-mêmes et avec une grande crainte. Nous avions peur parce qu'un os gâté doit ressembler à une plaie et nous pensions la voir et souffrir à cause de sa profondeur et de son pu. Mais non, et c'était simplement un petit os poreux, un peu plus gris qu'il n'aurait dû. Alors, nous fûmes bien étonnés de ce que si peu de choses put produire tant d'effets. Nous l'enveloppâmes dans du papier de soie pour le conserver, mais nous n'étions pas rassurés. Ça commence par un petit os de la mâchoire, de même qu'une carie d'os commence par une fluxion légère. Et ça se poursuit longtemps comme un mal qui ronge. C'est une fraction et c'est une autre. Et puis, c'est tout un os qui disparaît. Et d'autres os s'en vont qu'a corrompu un mauvais voisinage, car les maux gagnent de proche en proche avec la mort pour but. On comprend que l'humanité est faite pour les maux lorsqu'on voit leur naissance et leur développement. Un os de ma mâchoire sort par ma bouche. Et nous nous demandions si tous les os de ma tête n'allaient pas sortir par le même endroit. Ah, les semaines qui suivirent, je sentais ma mâchoire en travail qui se désagrégeait seconde par seconde, comme le temps se désagrège avec cette assurance égale que donnent les grandes forces. Voilà ce que je croyais sentir. Lorsque mon sang avait un peu plus de vie, alors qu'un peu de calme semblait me revenir, cela accélérait encore la vitesse du mal. C'est une marche vers la mort. Dieu, parfois, la rend agréable et rapide, mais c'est afin de mieux nous tromper, pour que nous arrivions plus tôt à sa fin. Et j'étais un pauvre enfant plié. Je m'asseyais sur ma chaise, je me couchais dans mon lit, j'étendais mes bras en croix comme l'autre qui avait tant souffert, et je n'aurais pas voulu souffrir, et je n'aurais pas voulu mourir. Les actions de la vie me semblaient superflues. Ah, c'est la fin de l'été, et c'est un peu l'automne, et il y a un beau soleil dans le ciel bleu. Que m'importaient ces choses? Et que m'importait le travail, les paroles et les visites au médecin? Mes idées habitent deux trous de ma joue auprès des os de ma mâchoire, dans un pays où l'on ne vit plus qu'une vie maigre et pourrie. Le monde est malsain, les médecins ne savent pas guérir les malades, et le travail et les paroles sont superflus puisque l'on doit mourir. Ma pauvre maman me prenait la main et m'entraînait. Il faut une grande persistance dans nos espoirs et suivre courageusement le destin où il nous conduit. Le destin nous conduisait encore au cabinet du médecin. Maman le suivait, égale et forte comme les forces qui nous poussaient, et le suivait jusqu'au bout en me traînant par la main. Je m'en allais, avec des petits pas de laine et la tête baissée, et je sentais en moi toutes les défaillances d'un vaincu. Aie du courage, mon petit enfant. Les médecins qui nous enlèvent nos os ne nous font pas souffrir longtemps. Et puis je t'achèterai des biscuits. Tu les mangeras avec du vin, et tu sais qu'ils sont bons comme des bonbons, et qu'ils fortifient le cœur des enfants malades. » Une autre fois, elle me dit, « Si tu es bien sage et que tu ne cries pas, je t'achèterai un crayon rouge et bleu. » Un crayon rouge et bleu, je voulais le gagner, parce qu'il sert à composer de beaux dessins. Ce jour-là, le médecin aurait pu m'enlever bien des os sans me faire crier. Un crayon rouge et bleu possède une grande puissance à cause de ces deux couleurs éclatantes qui rappellent l'uniforme des soldats. Je le voyais devant mes yeux et doué d'une grande beauté. Il faut souffrir pour le posséder. Mais la possession en est si bonne qu'il semble qu'ensuite on ne pourra plus mourir. Le médecin dut faire un voyage à Paris. Avant de partir, il nous dit « Je vais emporter un des petits os que nous avons arrachés pour le montrer à l'un de mes anciens professeurs. » Et quand il revint, voici ce qu'il nous apprit. C'est bien une carie d'os, comme je vous l'avais dit. Il aurait fallu pratiquer une opération et gratter la partie malade, mais nous ne le pouvons plus maintenant, à cause de la faiblesse de cet enfant. Laissons, et le mal s'en ira seul. Nous laissâmes. La résignation des pauvres gens s'étend sous le ciel comme une bête blessée et regarde doucement les choses dont elle ne peut point jouir. Auprès du médecin, mon mal s'accrut parce que c'était dans ma destinée. Il aurait fallu une opération chirurgicale, mais nous n'en voulions à personne en pensant que nous étions de pauvres gens. Les ouvriers savent que la vie est pénible puisqu'il faut travailler chaque jour, et les maladies leur montrent qu'elle est plus pénible encore puisqu'on ne conserve pas toujours cette vie pour laquelle on a travaillé. Les médecins sont riches et leur fortune les éloigne de nous. Ils passent en voiture, leur regard s'arrête à peine sur nos humbles maisons et leur esprit les considère un instant, puis s'en va. Nous restons penchés sur nos besognes et nous acceptons les lois naturelles, le travail, les maux et la richesse. Nous disons simplement « nous n'avons pas de chance ». Et c'est la formule dernière de nos cerveaux, grâce à laquelle nous pourrions vivre dans le malheur éternel. Il arriva que le dernier morceau d'os sortit de ma mâchoire. Je fus guéri et nous en étions étonnés.